Merci Marie-Josée pour ce beau texte qui pose pas mal de questions dont nous discuterons après. Après avoir entendu Nicolas Pendrien, que vous connaissez, qui travaille à Paris, qui... je t'ai pas présenté, tu viens de loin, du sud-ouest, Toulouse, une maison,
Tarbes,
je confonds toujours de Tarbes. Mais tu es enseignante au Collège clinique du sud-ouest, ça c'est sans problème. Donc Nicolas va nous parler, lui, d'écriture justement, du réel sans histoire, point d'interrogation, quelques formes contemporaines de l'écriture de soi, malade.
Merci.
Je t'en prie.
Alors, dans ce qui va suivre, je prélève de cette catégorie de réel, qui n'est pas un mais multiple, deux acceptions. La première, simplissime et générale, est qu'est réel ce qui n'est pas de l'imaginaire ni du symbolique, et même ce qui en constitue une limite, l'irreprésentable, l'indicible, le hors-langage. L'autre facette que je prélève est plutôt une occurrence du réel, quand il se présente comme maladie grave, mortelle, qui se développe dans l'organisme du sujet. Ce n'est pas le réel du non-rapport sexuel que nous sommes comme analystes plus habitués à évoquer, c'est le réel de la mort à venir, de la douleur, de l'organisme vivant dans ce qu'il a de plus étranger au langage et aux représentations. Le réel de ce qui ne se laisse pas dire et fait très vite percevoir la faiblesse comme l'absolue nécessité du langage et de la parole pour rendre compte d'une telle expérience qu'est la maladie. Ce réel-là, il n'est pas absent de la pratique analytique, a fortiori si l'analyste exerce une partie du temps à l'hôpital. Mais il vient aussi bousculer certaines cures. Et la croyance encore tenace, qui m'étonne toujours, la croyance dans nos milieux, qu'avoir fait une analyse écarte la menace du cancer. Je me suis intéressé ces dernières années au recours à l'écriture comme pratique chez quelques patients atteints de cancer pour interroger ce qui pouvait s'écrire dans cette entreprise d'historisation du réel, ce qui peut s'écrire au sens cette fois de l'effet d'écriture, du réaménagement de la carte et du territoire du sujet. Car du réel qui surgit dans le cas de la maladie, chaque sujet va devoir en répondre, notamment en produisant l'histoire, puisqu'à l'avance, rien n'est jamais complètement écrit. Et ceci n'en déplaise, par exemple, aux immenses progrès de l'oncogénétique, qui lie dans une prise de sang la probabilité de survenue de la maladie dans tel ou tel organe. Les résultats ainsi produits sont en quelque sorte une écriture de l'histoire à venir. C'est possible actuellement. Le sujet doit donc en produire l'histoire, cela veut dire tenter de prendre cette émergence du réel dans le filet, dans la trame d'un discours, pour le nouer aux dimensions symboliques et imaginaires, pour renouer le fil de l'histoire qui semble brutalement sectionné par l'arrivée de la maladie. On vérifie là tous les jours l'aspect thérapeutique de l'histoire, de la mise en histoire et les bienfaits du récit. C'est évidemment tout à fait à l'opposé de ce que peut viser une psychanalyse, qui va plutôt viser, elle, les trous dans le récit, les accidents du récit, même si... Marie-Josée l'a dit, le récit, c'est un passage obligé pour le sujet, au début en tout cas de la traversée. Alors que le réel de la maladie soit à prendre dans la trame du discours, rien de nouveau sous le soleil. Certes, les grandes épidémies du Moyen-Âge nous ont laissé peu de traces écrites, et encore moins de récits individuels de telles catastrophes, mais on trouve dès le XVIIIe siècle quelques récits et essais décrits de l'expérience de la maladie, ce qui ne cessera de se développer. Au début du XXe, c'est la tuberculose qui s'immisce dans la littérature, et ce même siècle se clôture avec le sida, et l'écriture de soi d'Hervé Guibert, mort en 91. Alors les années 2000 font, il me semble, rupture avec ces pratiques qui jusque-là étaient dans leur immense majorité le fait d'écrivains professionnels. Et on assiste aujourd'hui à une montée de l'écrit. Avec Internet, c'est la fin du domaine réservé. N'importe qui peut non seulement écrire l'histoire de sa maladie, mais surtout peut la publier, quasi gratuitement, et connaître une diffusion et une audience parfois surprenantes. Certes, Umberto Eco, récemment disparu, a pu dire que les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar. Et pour beaucoup de ce qui se publie sur le net, on peut le suivre, mais pas pour tout, heureusement. Et paradoxe, l'écrivain, le vrai écrivain, peut lui-même emprunter à la forme Internet. C'est le cas d'un blog que j'avais découvert et suivi pendant plusieurs mois, qui s'appelait incondamné.tumblr.com, qui marchait sur les traces des derniers jours d'un condamné de Victor Hugo, et qui écrivait jour après jour son vécu, du décompte des jours jusqu'à la mort annoncée. Et ça s'est révélé le dernier jour être une expérience littéraire, et pas du tout le récit d'un malade. Internet fourmille donc de blogs, de journaux extimes, où l'expérience de la maladie grave s'écrit au jour le jour. Qu'est-ce qui s'y écrit dans ces blogs ? Essentiellement, c'est le fantasme de chacun qui s'écrit sur les blogs. Car Lacan l'avait bien noté, il n'y a pas d'autre entrée pour le sujet dans le réel que le fantasme. Sur chaque blog un peu consistant, c'est-à-dire dans chaque blog qui a un style. Ce n'est pas le cas de tous. On peut, par une lecture attentive, dégager un dire, ou l'hypothèse d'un dire, qui est position du sujet face au réel. Évidemment, lire des écrits, ce n'est pas la rencontre clinique. Et il faudrait à chaque fois vérifier, confronter ce qu'on perçoit de ce qui s'est écrit avec la rencontre réelle avec celui qui a écrit. Mais il me semble quand même que ça nous donne, la lecture de ces écrits, quelques repères, même si pas tous, sur la manière qu'a tel ou tel sujet de se situer par rapport au réel de la maladie grave. Ainsi, l'un, qui est un blog qui est toujours en ligne, dans le récit journalier de ses mauvaises relations avec les médecins oncologues, déclinera billet après billet son présupposé, son axiome. L'autre auquel il a affaire est arrogant. C'est une manière de se situer arrogant. C'est une manière de se situer par rapport au réel de la mort. C'est l'autre qui, par son incompétence et son arrogance, est responsable et de la survenue de la maladie et des échecs thérapeutiques. Pour une autre de mes patientes, qui écrivait parallèlement aux séances à l'hôpital, c'est un roman de la cause qu'elle produit sur sa tumeur pulmonaire. Roman lesté par le fantasme, que je pourrais dire du type « un enfant est étouffé ». Fantasme qu'elle construisait, qu'elle approchait peu à peu, au fur et à mesure des séances et de ses écrits. Là, l'historisation a vraiment pour objectif de faire du réel une histoire qui rompe avec l'insensé. Absolument intolérable pour la majorité des sujets. Et aussi une histoire qui fasse identité pour le sujet, par la concordance des temps qu'elle produit et la cohérence qu'elle peut réintroduire dans le parcours, en liant par exemple passé et présent. On trouve ce point dans un texte de Freud que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le poète et l'activité de fantaisie ». Il y a beaucoup de traductions de ce titre. Et Freud transpose chez le névrosé le rapprochement entre le jeu infantile et l'activité de création poétique. Et il dit qu'avec le fantasme, création d'un scénario accomplissant un désir, le névrosé réussit une concordance des temps et du désir inconscient. Freud évoque les dimensions du passé, du présent, du futur, comme enfilées sur le cordon du souhait qui les traverse. Le fantasme donc faisant cordon, lien entre ces dimensions corporelles. Alors la plupart du temps donc, la dimension réelle est quasiment recouverte par l'écriture fantasmatique, qui elle est liée au sens. Mais parfois, il y a quelques pépites et d'autres récits font exception et s'approchent un peu plus près de l'indicible. Nous sommes là dans une écriture pas uniquement du fantasme, mais une écriture qui laisse percer, qui laisse affleurer le réel sous le voile de l'histoire. Un blogueur, par exemple, dans un blog épistolaire qui s'intitule « Cher cancer », écrit des lettres à son ex-maladie. Et il joue du travail de la lettre pour écrire une distance avec sa maladie, toujours susceptible d'émerger à nouveau. Mais on y lit aussi, au fur et à mesure, à quel point les signifiants traumatiques s'infiltrent dans le tissu de ses lettres. À plus de 4 ans du traitement de sa maladie, ces signifiants traumatiques reviennent progressivement dans les écrits, et avec eux la charge d'angoisse. On y lit l'échec de la mise à distance du réel, par le symbolique et l'imaginaire, réel qui ne se laisse pas recouvrir et distancé par le travail d'historisation. Pour une autre que j'ai pu rencontrer, l'écriture de très courts textes qu'on pourrait penser anecdotiques se révèle, quand on les lit et qu'on les croise avec ce qu'elle peut en dire, des pièces, des petites pièces, où le moment traumatique, par exemple, d'annonces de chirurgie, est pris dans le travail de la lettre, sans pour autant le recouvrir, véritable touche de réel dans le texte. Les histoires ainsi produites ménagent une place au réel, et en écrivent, je pense, une topique. En localisant le réel dans le texte, pour que l'histoire du sujet malade puisse continuer à s'écrire. Et pas sans aménagement, souvent. Toutes ces créations, donc, blog ou autres, au-delà de leur forme, donnent donc quelques indices sur l'orientation de chaque malade qui les produit, et pour certains font effet d'écriture, quand ils bordent le réel, en le nouant aux autres dimensions, en lui ménageant une place qui ne soit pas toute la place. L'écriture de soi, le récit de soi, et encore plus du soi malade, est donc une pratique fréquente et relativement banale, et socialement assez valorisée. Savez-vous qu'il existe une SPA de l'autobiographie ? C'est l'APA, l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, fondée par Philippe Lejeune, et qui reçoit... Ouais. Non, je crois pas. C'est une association donc qui reçoit, lit, classe et conserve dans une petite ville de l'Ain, en Berrieux-en-Bugey, 3500 textes. Dans les hôpitaux, on voit arriver des psychobiographes qui se proposent d'écrire, après quelques entretiens, avec un patient en fin de vie, l'histoire de la vie de ce patient. Là aussi, c'est le côté marbre de l'histoire. Un beau livre est remis quelques semaines après, pas toujours au patient lui-même. La durée moyenne de séjour en soins palliatifs étant de 16 à 17 jours, donc il faut aller vite. C'est remis donc à la famille après le décès, si le patient en est d'accord. Cela devient, ou va devenir, un business, celui de l'histoire écrite de soi qu'on peut transmettre. Et cet engouement est aussi, je pense, en prise avec celui de nos contemporains pour le témoignage, qui est l'autre facette de l'écriture de soi que je voulais évoquer dans cette participation ce soir. Avec le témoignage, on peut arriver à une simplification extrême de l'écriture de la maladie. Cette fois, il n'y a plus la ligne éditoriale d'un blog. Il n'y a plus la forme artistique des textes de fiction. Il y a le récit brut, le plus souvent concis, dépouillé de l'expérience. C'est une forme tellement populaire actuellement qu'un site, financé par un laboratoire pharmaceutique, a été construit pour recueillir et mettre en ligne les témoignages autour du cancer. Initialement, c'était autour du cancer du sein, mais le succès a été tel qu'ils ont élargi la fourchette à tous les types de pathologies cancéreuses. Donc, témoignages qui émanent de malades, mais aussi de proches et de soignants. Très rapidement, les concepteurs du site ont adjoint un moteur de recherche pour qu'on puisse se retrouver dans les témoignages et naviguer parmi tous les témoignages déposés. Freud aurait peut-être été intéressé par ce bloc-notes magique du XXIe siècle, qui reçoit indéfiniment chaque nouvelle écriture qu'on vient y déposer, n'en oublie aucune, moyennant un effort à fournir pour la recherche, et ne fait figurer à sa surface que les témoignages les plus récents. Chaque fois qu'un témoignage arrive, il figure en première page, ce qui refoule d'autant les autres dans l'arrière du site. Je ne vais pas rentrer dans une longue analyse descriptive de ce site, mais j'en viens directement au point qui peut nous intéresser. Ces témoignages sont des écritures de la maladie qui se veulent vraies et incontestables, puisque directement en prise sur du réel. Ces témoignages font comme équivaloir vérité et réel, ou plutôt tentent de dire vrai sur le réel. Dans un séminaire école en 2010, Jacques Adam avait clairement posé, pour moi, les rapports de similarité et d'opposition entre vérité et réel. À la fixité du réel, il opposait la mobilité et l'incertitude de la vérité. Mais il pointait que vérité et réel répondent tous deux à la logique de l'impossible, l'irreprésentable du réel, et l'impossible à dire toute de la vérité. C'est sur ce fil impossible que se situe le témoignage, en voulant éviter toute dimension de fiction, et même de toute forme artistique dans son style. Le témoignage se veut réel sans histoire, c'était mon titre, histoire vraie du réel de la maladie, et veut avoir aussi un bénéfice évident, et pour celui qui témoigne, et pour celui qui reçoit ce témoignage. Évidemment, c'est une entreprise vaine que le témoignage, quand on la regarde du point de vue de la psychanalyse, qui subvertit complètement cette catégorie de témoignage. C'est vain à plusieurs niveaux. C'est vain car en témoignant, en tout cas dans l'acception courante du témoignage, on dit ce que l'on sait. C'est ce point-là qui est jugé bénéfique dans le champ social, c'est le témoignage confession, enfin pouvoir confier à quelqu'un ce qui pèse. Or, la parole d'un sujet ne se réduit évidemment pas à dire ce qu'il sait. Et c'est même en disant ce qu'il ne savait pas qu'il savait l'instant d'avant que commence la psychanalyse. C'est une entreprise vaine, car comment témoigner d'autre chose que de la relation qu'on entretient avec le réel, puisque son abord direct n'est pas concevable. Je vous renvoie à ce que je disais des blogs un peu plus haut. Tout cela, ça s'écrit à l'encre du fantasme. Il n'y a pas de vérité unique du témoignage, alors, mais une multitude de points de vue subjectifs vrais pour chacun. Or, l'idée que nous tenons de Lacan, de la vérité menteuse, est dans ce champ du témoignage sur la maladie absolument scandaleuse. C'est une entreprise vaine, enfin, car quel est le destin d'un témoignage mis en ligne sur un site, parfois jamais commenté, et qui va s'enfouir progressivement sous l'arrivée incessante d'autres pierres à cet édifice jamais fini. À moins que l'inscription, puis l'enfouissement, ait un vrai bénéfice du côté d'une certaine séparation d'avec l'histoire, du passage au symbolique, qu'on ne peut pas négliger, qui fait que toujours plus on témoigne. À Gamben, dans un contexte qui évidemment ne souffre pas la comparaison avec celui que j'évoque ici, a pu très précisément, dans ce qui reste d'Auschwitz, définir le témoignage et les limites de cette entreprise. On connaît la position d'Agamben, qui est radicale. Le vrai témoin de l'entreprise nazie est celui qui ne peut pas témoigner. Je le cite, le témoignage vaut ici essentiellement pour ce qui lui manque. Il porte en son cœur cet intémoignable qui prive les rescapés de toute autorité. Toute proportion gardée, encore une fois. Le témoignage sur la maladie mortelle porte aussi en son cœur un impossible, celui de tout dire, de dire tout du réel de la mort, d'en faire histoire. Agamben écrit encore « L'autorité du témoignage ne dépend pas d'une vérité factuelle, de la conformité entre la parole et les faits, la mémoire et le passé, mais de la relation immémoriale, entre dicible et indicible, entre dedans et dehors de la langue. L'autorité du témoin réside dans sa capacité de parler uniquement au nom d'une incapacité de dire. » Peu de témoignages dans la masse que j'ai pu lire touche à cette incapacité de dire. Et je crois que c'est en cela qu'il rate l'objectif de transmission qui est impliqué dans l'entreprise du témoignage, du dire à d'autres. Ces témoignages veulent tout dire et recouvrir de paroles le trou de ce qui ne peut pas se dire, d'où un effet un peu étouffant, en tout cas pour le lecteur que je suis. Ce qu'on ne retrouve jamais, par exemple, dans la clinique, dans l'écoute des patients. Autant la lecture du témoignage peut être étouffante, autant la clinique m'en a jamais produit ça. Le recours à la dimension artistique pour saisir et donner une place au réel n'est, à mon avis, pas à négliger. Ce recours a le mérite d'engager un dialogue avec le lecteur qui doit lui aussi, comme me le disait une patiente écrivant, faire une partie du travail. Ce pas est, me semble-t-il, le plus fréquemment absent quand l'écriture de l'histoire se fait témoignage. La littérature y touche parfois, ce serait un autre travail à faire. Je cite simplement la préface à l'espèce humaine de Robert Antelme, parce qu'il écrit très précisément, au retour des camps, le nécessaire passage par l'imagination, pour rendre compte de l'inimaginable. L'impossible, mais nécessaire historisation. Il dit « Il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions arrivés là ? Nous y étions encore, et cependant c'était impossible. À peine commencions-nous à raconter que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. Cette disproportion entre l'expérience que nous avions vécue et le récit qu'il était possible d'en faire ne fit que se confirmer par la suite. Nous avions donc bien affaire à l'une de ces réalités qui font dire qu'elles dépassent l'imagination. Il était clair que désormais, c'était seulement par le choix, c'est-à-dire encore par l'imagination, que nous pouvions essayer d'en dire quelque chose. Alors je finis. Les histoires les plus justes sur ce réel de la maladie m'ont paru paradoxalement les œuvres de fiction, d'auto-fiction, produites par quelques patients ou au cours d'ateliers d'écriture poétique. Certains, sous l'histoire, laissent affleurer le réel et témoignent de l'impossible entreprise dans laquelle le sujet est embarqué. Est-ce si loin de nos témoignages de passe ? Seule occurrence, à ce que je sache, du témoignage dans la psychanalyse. Quand, au plus près du réel, un sujet s'avance pour dire le poème qu'il est et qu'il signe. Ce qui consiste à raconter à d'autres qui ne sont pas loin de l'expérience de celui qui témoigne, raconter à d'autres via les trous et les bosses de ce qui s'est écrit de son histoire, et comme on dit de quel bois on se chauffe, dire de quel réel on est fait. Voilà.